Aussitôt franchi le seuil de la salle de bal, je filai le long du couloir qui menait au hall d'entrée, en passant devant le salon, la bibliothèque, la salle de jeu, le fumoir. Enfin, j'arrivai devant l'escalier. Sautant comme un diablotin, je commençais à grimper les marches une à une, en me faisant tout petit contre le mur.
Toujours derrière moi, Bruno. Oui, je fais ce que je peux.
La chambre de grand-mère et la mienne se trouvaient au 5e étage. C'était vraiment une dure ascension pour des souriceaux. Nous ne rencontrâmes personne, puisque tout le monde utilisait l'ascenseur. Arrivé au 5e, je poursuivis ma course folle dans le couloir qui conduisait à la chambre de grand-mère. Ses chaussures attendaient d'être cirées devant la porte. Bruno avait fini par me rejoindre.
« Et maintenant, que va-t-on faire ?»
Soudain, j'aperçus une femme de chambre qui se dirigeait vers nous. Je la reconnus immédiatement. Il s'agissait de celle qui avait rapporté au directeur l'existence de mes souris blanches. Je ne voulais pas qu'elle me voie sous ma nouvelle peau.
« Vite, cachons-nous dans les chaussures !»
Je sautai dans l'une et Bruno dans l'autre. Je pensais que la femme de chambre poursuivrait son chemin, mais non. Elle se baissa pour ramasser les chaussures. Elle mit sa main directement dans celle où je m'étais caché. Et quand l'un de ses doigts effleura ma fourrure, je la mordis. C'était idiot d'agir ainsi, mais je le fis par pur instinct, sans réfléchir. La femme poussa un tel cri qu'on dut l'entendre sur les bateaux qui traversaient la Manche. Elle laissa tomber les chaussures et déguerpit dans le couloir. Grand-mère ouvrit la porte.
« Mais que se passe-t-il »
Je me faufilai dans sa chambre, suivi de Bruno.
« Ferme la porte, grand-mère. Dépêche-toi, je t'en prie !»
Grand-mère regarda autour d'elle et finit par découvrir deux souriceaux bruns sur la moquette.
« S'il te plaît, ferme la porte !»
C'est à ce moment-là que grand-mère vit un souriceau qui parlait avec ma voix. Grand-mère resta pétrifiée. On aurait dû une statue de marbre blanc. Ses yeux étaient si exorbités qu'on voyait le globe oculaire tout entier. Puis elle se mit à trembler. Elle allait s'évanouir et tomber par terre.
« S'il te plaît, grand-mère, ferme vite la porte. Cette affreuse femme de ménage pourrait revenir. »
Grand-mère réussit à reprendre le dessus et ferma la porte. Elle s'adossa contre le mur, tout en regardant le souriceau que j'étais devenu. Je vis des larmes rouler le long de ses joues.
« Ne pleure pas, grand-mère. Il aurait pu m'arriver pire. J'ai réussi à échapper aux sorcières et je suis encore en vie. Voilà l'important. L'autre souriceau s'appelle Bruno. »
Grand-mère se pencha très lentement vers nous, nous souleva et nous déposa sur la table. Bruno se précipita vers une jatte de banane et se mit à ronger la peau d'un des fruits. Grand-mère s'agrippa au bras d'un fauteuil pour ne pas tomber. Elle ne me quittait pas du regard.
« Assieds-toi, grand-mère. »
Elle s'effondra dans le fauteuil.
« Oh, mon petit !»
Et les larmes se remirent à couler à flots le long de ses joues.
« Oh, mon pauvre petit ! Raconte-moi comment tout cela est arrivé. »
« La grandissime sorcière m'a transformée en souriceau. Mais la chose la plus curieuse est que, honnêtement, je me sens bien dans ma nouvelle peau. Et plus curieux encore, je ne lui en veux pas. » Je me préfère en souriceau. Je ne suis plus un petit garçon et je sais que je ne le redeviendrai plus jamais. Mais tout ira bien tant que tu me protégeras.
Pour grand-mère, ce n'était pas exactement des paroles de consolation. Mais j'étais parfaitement sincère. Grand-mère devait trouver bizarre que je ne sois pas accablé par mon sort. C'était bizarre en effet. Mais c'était ainsi. Je n'arriverai jamais à l'expliquer.
Bien sûr, je te protégerai. Tu peux me redire comment s'appelle l'autre souriceau ?
Bruno Jenkins. Il a été transformé aussi par la grandissime sorcière.
Grand-mère prit un long cigare d'une boîte dans son sac et le porta à la bouche. Elle cherchait également une boîte d'allumettes. Elle frotta une allumette, mais ses doigts tremblaient tellement qu'elle ne réussit pas à allumer le bout de son cigare. Quand elle y parvint enfin, elle tira une longue bouffée et avala la fumée. Cela sembla la calmer un peu.
Où est-ce que c'est arrivé? Où est la grandissime sorcière? Habite-t-elle l'hôtel?
Grand-mère, il n'y a pas que la grandissime sorcière. Elles étaient des centaines. Elles remplissaient toute la salle de bal et elles logent à l'hôtel.
Tu veux dire vraiment que les sorcières anglaises tiennent leur congrès annuel ici, dans cet hôtel?
Oui, grand-mère. Le congrès est déjà fini. J'ai tout vu et tout entendu, du début jusqu'à la fin. Toutes les sorcières anglaises et la grandissime sont au rez-de-chaussée. Elles se font passer pour les membres de la Société royale pour la protection de l'enfance persécutée. Et en ce moment, elles prennent le thé avec le directeur de l'hôtel.
Comment t'ont-elles découvert ?
Elles m'ont reniflé.
Tu sentais le caca de chien, n'est-ce pas ?
C'est vrai. Mais mon odeur était à peine perceptible, car je n'avais pas pris de bain depuis longtemps.
Les enfants ne devraient jamais prendre de bain. C'est une habitude dangereuse.
Tu as raison, grand-mère.
Elle fit une petite pause pour tirer une bouffée de son cigare.
Elles sont vraiment au rez-de-chaussée en train de prendre le thé ?
Oui, j'en suis sûre, grand-mère.
Il y eut une nouvelle pause. Je vis un éclair de malice briller dans ses yeux. Et soudain, elle se redressa sur son fauteuil et dit d'une voix ferme
« Raconte-moi tout, du début jusqu'à la fin, et vite, s'il te plaît. »
Je repris ma respiration et commençai à raconter. Mon arrivée dans la salle de bal, ma cachette derrière le paravent pour entraîner mes souris blanches, le panneau annonçant « Congrès annuel de la Société royale pour la protection de l'enfance persécutée », les femmes qui arrivaient et s'asseyaient, la petite femme haute comme trois pommes sur l'estrade, le moment où elle enleva son masque. Pour décrire son visage, je ne pus trouver les mots exacts.
C'était horrible, grand-mère. Vraiment horrible. Son visage était... Son visage pourrissait.
Poursuis, ne t'arrête pas.
Alors je racontais que les sorcières avaient enlevé leurs perruques, leurs gants et leurs chaussures et que soudain, j'avais vu leurs crânes chauves et boutonneux, leurs griffes et leurs pieds sans orteils. Grand-mère avait rapproché son fauteuil de la table et s'était assise sur le bord du siège. Des deux mains, elle tenait le pommeau doré de sa canne. Ses yeux scintillaient comme des étoiles. Puis je racontais comment la grandissime sorcière avait fait jaillir un fulgurant éclair d'étincelles et comment elle avait transformé une malheureuse sorcière en nuage de fumée.
J'en avais entendu parler, mais je ne l'avais jamais cru. Tu es le premier à l'avoir vu de tes propres yeux. Il s'agit de la punition la plus redoutable de la grandissime sorcière. C'est la punition frite. Toutes les sorcières sont terrifiées à l'idée de passer à la poêle. On m'a dit que la grandissime en a fait une règle et frit au moins une sorcière à chaque congrès annuel pour que, après cette friture, les sorcières viennent lui lécher les orteils.
Mais les sorcières n'en ont pas, grand-mère.
Je sais, mon petit, je sais, mais continue, s'il te plaît.
Je racontais le plan diabolique de la grandissime sorcière qui avait inventé des bonbons à retardement pour transformer tous les petits Anglais en souris.
Je m'en doutais. Je me doutais bien qu'elle tramait quelque chose de terrible, cette grandissime sorcière.
Il faut les faire arrêter par la police.
On ne peut pas arrêter une sorcière. Pense au fulgurant pouvoir que cette terrible grandissime sorcière a dans les yeux. Elle peut tuer n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, avec ce fulgurant éclair d'étincelles. Tu l'as vu toi-même.
Oui, grand-mère. C'est pourquoi il faut l'empêcher de transformer tous les enfants anglais en souris.
Tu n'as pas encore fini ton histoire. Raconte-moi ce qui s'est passé pour Bruno. Comment l'ont-elles transformé ?
Alors je racontais l'arrivée de Bruno dans la salle de bal et comment je l'avais vu être changé en souris. Grand-mère regarda Bruno qui se régalait avec les bananes.
Il ne s'arrête pas de manger ?
Jamais. Peux-tu répondre à une question ?
J'espère.
Elle me posa sur ses genoux. Très doucement, elle commença à caresser la fourrure de mon dos. Je me sentais bien.
Quelle est ta question, mon petit ?
Je ne comprends pas pourquoi Bruno et moi, nous pouvons encore parler et penser comme lorsque nous étions des garçons.
C'est très simple. Les sorcières ne pouvaient pas vous transformer en souris à 100%. Elles n'ont fait que vous rapetisser et vous donner des pattes et une fourrure. Sous l'apparence d'un souriceau, tu es toujours toi-même. Tu gardes ton âme, ton esprit et ta voix de garçon. Remercie le ciel pour cela.
Ainsi donc, je ne suis pas vraiment un souriceau. Je suis une espèce de souriceau enfant.
Exactement. Tu es un garçon dans le corps d'un souriceau. Tu es un être à part.
Grand-mère et moi, nous restâmes silencieux un moment. Grand-mère continuait à me caresser doucement l'échine et attirait des bouffées de son cigare. Le seul bruit que l'on pouvait entendre dans la chambre était celui des dents de Bruno qui continuaient toujours à s'attaquer aux bananes. Quant à moi, mon esprit bouillonnait et les idées les plus folles grouillaient dans mon cerveau.
Grand-mère, j'ai une idée.
Oh oui, mon petit, laquelle?
La grandissime a dit aux vieilles sorcières qu'elle logeait dans la chambre 454. Tu me suis, grand-mère?
Je te suis, mon petit.
Ma chambre porte, elle, le numéro 554. Et j'habite au 5e étage. Comme sa chambre porte le numéro 454, elle doit loger au 4e étage.
Tu as raison.
Alors, ne penses-tu pas qu'il est possible que la chambre 454 soit juste au-dessous de la chambre 554?
Oh, c'est plus que probable. Ces hôtels modernes sont construits comme des cubes. Mais à quoi penses-tu?
Pourrais-tu me mettre sur mon balcon pour que je puisse voir le balcon du dessous?
Toutes les chambres de l'hôtel Magnificent avaient de petits balcons. Grand-mère m'emmena sur celui de ma chambre. Nous jetâmes un coup d'œil sur le balcon du 4e étage, au-dessous.
Si c'est son balcon, je parie que je peux descendre d'un étage et entrer dans sa chambre.
Pour qu'elle t'attrape à nouveau. Non, je ne veux pas.
En ce moment, toutes les sorcières sont au rez-de-chaussée en train de prendre le thé avec le directeur. La grandissime ne sera de retour dans sa chambre que vers 18h. C'est l'heure à laquelle elle a donné rendez-vous aux vieilles sorcières qui sont trop âgées pour grimper aux arbres et cueillir les œufs des grognassiers. Elle va leur donner un flacon de potion souris à retardement.
Bien. Si tu réussis à entrer dans sa chambre, que feras-tu?
J'essaierai de trouver l'endroit où elle cache les flacons. Et si je réussis, j'en vole un et je le ramène ici.
Pourras-tu transporter un flacon?
Oui, il s'agit d'un petit flacon.
Je n'aime guère ça. Que feras-tu de ce flacon?
Un seul flacon suffit pour transformer 500 enfants en souris. Il y a environ 200 sorcières. On leur donnera donc au moins une double dose à chacune et on les transformera toutes en souris.
Quelle idée fantastique! Génial! Tu es génial, mon petit!
Il y avait un énorme vide au-dessous de moi. Je m'apprêtais à franchir la balustrade quand grand-mère bondit.
Attention, grand-mère! T'as failli me faire tomber!
Nous allons débarrasser l'Angleterre de toutes ces sorcières d'un seul coup et par-dessus le marché de la grandissime sorcière.
Ça vaut la peine de tenter le coup.
Écoute-moi, si nous réussissons ce coup, ce sera la plus grande victoire de l'humanité contre les sorcières.
Il reste encore pas mal de choses à faire.
Oh, bien sûr. Supposons que tu réussisses à t'emparer d'un de ces flacons. Comment feras-tu pour le vider dans leur nourriture?
Nous en reparlerons plus tard. D'abord, il faut s'emparer d'un flacon. Mais comment être sûr que sa chambre est juste au-dessous de la mienne?
Nous allons examiner cela immédiatement. Allons-y, il n'y a pas une seconde à perdre.
Me tenant dans sa main, grand-mère sortit vite de ma chambre et courut dans le couloir. À chaque pas, sa canne frappait la moquette. On descendit l'escalier d'un étage. Au 4e, on regarda les numéros inscrits en chiffres dorés sur les portes de chaque côté du couloir.
Voici sa chambre, numéro 454.
Elle tenta d'ouvrir la porte, mais celle-ci était fermée. Elle regarda autour d'elle, à droite, à gauche, dans le long couloir vide.
Je pense que tu as raison. Sa chambre est sûrement sous la tienne.
Elle revint sur ses pas en comptant le nombre de portes entre la chambre de la grandissime sorcière et l'escalier. Il y en avait 6. Elle remonta au 5e et compta jusqu'à 6.
554 ! Ta chambre est juste au-dessus de la sienne.
On entra dans ma chambre et on revint sur le balcon.
Il s'agit bien de son balcon. Et mieux encore, la porte-fenêtre qui donne sur le balcon est largement ouverte. Comment vas-tu descendre, mon petit?
Je ne sais pas.
Nos chambres donnaient directement sur la plage. Mais en bas, il y avait une grille avec des barreaux pointus comme des lances. Si je ratais le balcon de la grandissime sorcière, j'étais fichu.
J'ai trouvé!
Me tenant toujours dans sa main, elle courut dans sa chambre et commença à fouiller dans une commode. elle en sortit une grosse pelote de laine bleue, des aiguilles et une chaussette à moitié finie qu'elle tricotait pour moi.
« Ça ira. Je te mets dans la chaussette et je te fais descendre en déroulant la pelote. Il faut se dépêcher. Ce monstre peut revenir dans sa chambre à n'importe quel moment. »